Coucou, c'est Victor. Comme un poisson dans l'eau, c'est un podcast indépendant, gratuit à écouter et sans publicité. Mais c'est pas gratuit à produire. Ça me demande de l'argent, mais surtout énormément de travail qui n'est pas rémunéré. Alors si vous pensez que Comme un poisson dans l'eau apporte quelque chose de positif et que vous voulez qu'on puisse continuer à déconstruire le spécisme ensemble, j'ai besoin de votre soutien. Vous pouvez aller sur la page YouTube du podcast, dont le lien est en description, et établir un don mensuel ou faire un don ponctuel. Vraiment, même 1 €, ça me fera très plaisir. Et si vous donnez tous 1 €, ou même plus, j'aurai vraiment de quoi faire grandir le podcast. Un immense merci aux tipeuses et tipeurs pour votre soutien. Et sinon, une autre super façon de soutenir le podcast, c'est de le partager sur les réseaux, d'en parler autour de vous, et de laisser des étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Allez, sans plus attendre, c'est parti pour l'épisode. Salut, moi c'est Victor Durand-Lepeuch, et vous écoutez un entretien de Comme un poisson dans l'eau, le podcast contre le spécisme. Le spécisme, c'est pas que des idées, c'est pas qu'une idéologie, c'est aussi des institutions. Des acteurs économiques qui sont en lutte pour défendre leurs intérêts en perpétuant l'exploitation des autres animaux. Et parmi ces acteurs, les lobbies ont vraiment une place très importante, du fait de leur pouvoir d'influence majeur sur l'opinion publique, sur la décision politique et les législations adoptées. On se concentre, dans cet épisode, sur les lobbies de la viande, et seulement d'animaux terrestres, je le précise, mais il faudrait mener la même analyse pour les animaux aquatiques. Pour ce faire, j'ai le grand plaisir de recevoir Laure Ducos, experte des enjeux environnementaux en agriculture et en alimentation, et consultante sur ces questions. Elle est l'autrice du rapport publié en janvier 2022 « Comment les lobbies de la viande nous manipulent », rédigé lorsqu'elle était chargée de campagne pour l'association écologiste Greenpeace France. Bonjour Laure Ducos.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, on va se plonger en détail dans un sujet qu'on a déjà touché du doigt dans pas moins de 5 épisodes de Comme un poisson dans l'eau. C'est vous dire si ce sujet est important. J'ai nommé les lobbies de la viande. Alors déjà, pour commencer simplement peut-être, c'est quoi un lobby ?
Un lobby, alors dans l'imaginaire collectif, un lobby, c'est quelque chose c'est très négatif en fait. À l'origine, le terme lobby, il fait référence aux antichambres des hôtels, c'est-à-dire en Angleterre, en Royaume-Uni. Donc c'était le lobby, c'était vraiment ce lieu d'accueil où des personnes venaient pour influencer des décideurs politiques. Et c'est d'où le terme faire du lobbying, c'était en référence à cette attente dans des halls d'attente d'hôtels en fait.
Ah oui.
Aujourd'hui, le terme lobbying, en tout cas la définition que Greenpeace a utilisée, c'est le fait d'influencer des lois et de réglementations pour l'intérêt privé. Et c'est là que je fais une différence avec le plaidoyer, qui est plutôt au nom de l'intérêt général. Enfin, pas plutôt, le plaidoyer, c'est de l'intérêt général. Sachant que certains parlent de lobbying à la place du plaidoyer et vice-versa, mais pour moi, ce qui est important à retenir, c'est la distinction intérêt privé et intérêt général.
Ce que font les assos, en fait, c'est du plaidoyer, du coup.
Alors, les associations font du plaidoyer, mais alors attention, parce qu'il y a des associations qui sous couvert de statut de loi 1901, donc sous couvert de statut associatif, défendent en fait des intérêts industriels.
Ah oui.
C'est le cas dans le secteur de la pêche, notamment de la pêche industrielle, puisque avant de travailler à Greenpeace, j'ai travaillé pour Bloom, une asso qui travaille sur la défense de la pêche artisanale et contre la pêche industrielle. Et donc déjà, dans ce secteur-là, on pouvait observer cette manigance des lobbies. Donc attention, c'est pas simplement association égale intérêt général et entreprise égale intérêt privé. Parfois, c'est un peu plus complexe que ça.
Ouais, d'accord. Alors, c'est quel genre de personnes, les lobbyistes, vous qui avez eu à les côtoyer dans le cadre de votre travail? Et aussi, comment c'est de devoir un peu se confronter à elles et eux?
Alors ça dépend vraiment. Dans le secteur de la viande, il y a différentes filières. Hein, je ne vous apprends rien là-dessus. Il y a des filières porcines, avicoles, des filières de viande rouge. Et les lobbies n'ont pas du tout les mêmes façons d'agir en fonction de l'une ou l'autre des filières. Dans la filière porcine, par exemple, qui est une filière extrêmement industrialisée, où finalement cette filière n'a rien pour elle, je pourrais le dire comme ça. C'est-à-dire que, alors c'est la viande préférée des Français et des Françaises. Pour autant, la viande transformée notamment, les charcuteries, sont classées cancérigènes par l'Organisation mondiale de la santé. Et en plus de ça, la filière est très industrielle, c'est-à-dire qu'en termes de bien-être animal, c'est l'horreur. 95% des porcs ne voient jamais le jour. Et en termes d'écologie, c'est terrible également. Donc cette filière-là, les lobbies vont être beaucoup plus agressifs et beaucoup plus directs, finalement, que les lobbies qui représentent la viande rouge, où la filière dans son ensemble en France est beaucoup plus durable d'un point de vue de l'éthique animale comme d'un point de vue de l'écologie. Ceci étant dit, bien sûr, ça n'enlève rien à la question de la mise à mort, mais je parle vraiment pour arriver à faire une distinction entre ces différentes filières.
D'accord. Et les personnes, du coup, qui travaillent pour ces différentes filières, à quoi elles ressemblent? Comment c'est d'interagir avec elles et eux?
Et alors ces personnes-là, donc ça dépend beaucoup. Moi, les personnes que j'ai eu à faire, c'était des femmes expérimentées qui avaient beaucoup l'habitude d'être dans des réunions ministérielles, interministérielles, et qui sont finalement très sympathiques. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui vont être enthousiastes, volontaires, très présentes, s'impliquer dans les groupes de travail, surtout être fines et courtoises. Et c'est ça qui va permettre... Enfin, en fait, elles ont une grande expérience de communication, c'est leur métier. Elles sont des professionnels de la communication. Donc ce sont pas forcément, enfin je sais pas comment le dire, mais des personnes affreuses qu'on pourrait voir dans des dessins de caricatures par exemple de lobby.
Ouais.
Ce sont pas forcément des personnes en costard avec des montres en or et de l'argent plein les poches qui dépassent des poches. Voilà, on est quand même loin de cette caricature-là aujourd'hui en France.
Oui, c'est vrai qu'elles font en fait d'autant mieux leur boulot qu'elles ont un relationnel agréable et qu'elles sont subtiles, fines. Ouais. Bah du coup, quand des ONG, quand des organisations internationales d'intérêt public comme Greenpeace tentent de travailler en concertation avec ces lobbies comme ça peut leur arriver, est-ce qu'il n'y a pas un risque de se faire avoir en fait par justement ce côté très subtil de la chose et que la collaboration soit finalement utilisée complètement au profit des lobbies?
Alors ça c'est une vraie question et je pense qu'on ne peut pas répondre de façon binaire, ça dépend vraiment du contexte de comment est-ce que c'est fait. On peut avoir des discussions qui vont être très bénéfiques au sens où ça va faire avancer les choses, et des questions qui peuvent être tout à fait informelles. Et dans ce cas-là, on peut demander des cadres de confidentialité, demander à se rencontrer, que ce soit la demande vient d'une partie ou de l'autre, mais sous réserve qu'il n'y ait aucune communication de fait, informelle ou formelle à ce sujet. Pour autant, parfois, il y a des communications qui sont faites de façon conjointe. Et ça, dans certains cas, ça peut servir la cause environnementale, mais dans l'autre, il est possible, et ça arrive, que des organisations professionnelles, donc des représentants des filières viande, se servent de ce travail conjoint pour valoriser ce qu'elles font. Et par exemple, pour donner un exemple très concret, Interbev, qui est l'interprofession de la viande rouge, donc le lobby de la viande rouge, est intervenu durant des discussions internationales sur les COP, donc pour tout ce qui est autour des enjeux de climat, en se targuant de travailler avec les ONG environnementales, de beaucoup travailler sur ces enjeux-là, et donc avec en plus en affichant les logos de ces associations dans leur présentation PowerPoint. Ce qui fait que là, on arrive vraiment à une façon de faire qui peut paraître anecdotique comme ça, mais qui en fait contribuent à dorer leur image et participent à une influence parfaitement tentaculaire.
Ouais, vous m'avez parlé d'un move de la part d'Interbev encore plus subtil que ça, une espèce de fausse main tendue aux ONG, c'est ça?
Oui, tout à fait, c'est ce que j'ai mis dans notre rapport. C'était pendant la loi climat, enfin la loi climat et résilience, il y avait eu toute une très forte polémique lorsque le maire écolo de Lyon avait décidé de mettre en place des menus uniques sans viande ni poisson, donc des menus uniques végétariens. Et il avait fait ça surtout parce que c'est le menu le plus facile à mettre en place, notamment d'un point de vue des communautés religieuses. Donc c'est le menu le plus accepté par toutes et tous, qui pose le moins de problèmes. Et comme il y avait des contraintes techniques dues à la pandémie, eh bien c'était plus facile de mettre un menu unique végétarien. Et il s'est fait tomber dessus, et suite à ça, il y a eu énormément d'une grosse polémique, il y a eu beaucoup de journalistes, enfin ça fait couler beaucoup d'encre chez les journalistes et chez les politiques. Et suite à ça, comme on était en pleine loi climat, donc toujours nos amis d'Interbev ont publié une lettre ouverte disant, alors je sais plus le titre exact, mais c'était autour de cette main tendue aux associations en disant ne nous laissons pas avoir par les journalistes, ne laissons pas croire qu'il y a une opposition entre viande et écologie. En réalité, nous pouvons travailler ensemble et demander moins et mieux de viande. Alors, il le disait pas comme ça. Il disait, en fait, limiter la consommation de viande à 2 fois par semaine dans les écoles, mais en fait, c'était pas seulement viande, c'était viande rouge. Et en fait, dans les écoles, les enfants ne mangent pas plus de 2 fois de la viande rouge par semaine, de toute façon, puisqu'ils mangent aussi du poisson, du poulet, du porc, etc. Mmh. Donc en fait, quand on lisait le courrier rapidement, on avait l'impression que ce lobby était en train de dire « il faut manger moins de viande, il faut faire attention à l'écologie ». Mais dans les faits, quand on lit très concrètement, ça ne voulait pas du tout dire ça. Ça voulait juste dire « maintenons la consommation de la viande rouge à la fréquence à laquelle elle est actuellement ». Et sauf que ça, il n'y a que quand on est un expert du sujet qu'on peut s'en rendre compte. Et donc, en fait, ils ont publié cette lettre ouverte sans prévenir les ONG, alors qu'ils ont le numéro de tout le monde, ils ont mon numéro, ils ont celui de mes collègues, et sauf qu'ils ne nous ont pas prévenus, alors que ça fait quand même des années qu'il y a des discussions entre les ONG et Interbev, hein, donc je veux dire, c'était quelque chose de facile de contacter les personnes qu'ils connaissent, mais ils ont prévenu personne, et non seulement ils ont publié ce courrier dans la presse, mais ils l'ont envoyé à tous les députés de l'Assemblée nationale. Et en fait, quelle est la conséquence de ça? Parce qu'on pourrait dire, à la limite, ils font un coup de com', c'est pas très grave.
Oui, c'est un coup de com', c'est ça, ouais.
C'est ça, c'est ce qu'on appelle un coup de com'. Pourquoi c'est un coup de com'? Parce que non seulement nous avons décidé de les prendre au mot et de faire un courrier de retour et on les a contactés, on leur a dit « Banco, allons-y, vous proposez de travailler ensemble, faisons-le ». Nous, les ONG, on peut co-signer des propositions d'amendements, enfin des propositions pour changer la loi, pour qu'il y ait de la viande de qualité, enfin en tout cas pour que la viande servie dans les écoles soit de la viande qui ne soit pas issue d'élevage industriel. Et en parallèle, on demande à ce qu'il y ait plus de menus végétariens sans viande ni poisson.
Une vraie réduction, en fait, de la consommation de viande. Ouais.
Voilà, donc une réduction de la consommation de viande, c'est-à-dire aller vers vraiment du moins et mieux de viande, mais assumer le moins de viande. Et bien évidemment, Interbev a refusé catégoriquement de travailler sur le moins de viande, il ne voulait travailler que sur le mieux de viande. Et en fait, c'est là qu'est toute la finesse de ce lobby. On revient sur cette idée que les lobbies ne sont pas dans une action caricaturale, aujourd'hui ils sont très fins, très subtils. Et en fait, quand ils ont envoyé ce courrier à tous les députés, ça fait que, quand on a discuté après coup avec certains députés en leur disant « Attention, les propositions d'Interbev, elles ne visent qu'à renforcer la consommation de viande ou à maintenir un statu quo et empêchent la réduction de viande », certains, et j'ai pas envie de les nommer, mais certains qui sont très très aguerris et très engagés, donc vraiment de qui on pourrait attendre certains esprits critiques, nous ont dit « Mais attendez, moi j'ai reçu un courrier, Interbev a une position tout à fait entendable, ils sont pour le moins de viande, c'est très bien. » Alors qu'en fait, c'était pas du tout le cas.
Mais du coup, est-ce que les ONG ont vraiment pleinement pris conscience de ce risque de récupération, de juste servir d'instance de légitimation pour les lobbies, alors qu'eux, finalement, de leur côté, ils lâchent pas ne serait-ce qu'un centimètre sur les questions de réduction de viande?
Alors bien sûr que les personnes qui travaillent dans les ONG, surtout les personnes qui travaillent en plaidoyer ou dans les campagnes, elles sont tout à fait au fait des risques qui existent. Maintenant, je pense que personne n'est en mesure de dire aujourd'hui qu'est-ce qui est le plus stratégique. Est-ce qu'il vaut mieux s'afficher avec une organisation comme Interbev et pousser l'encadrement, par exemple, au niveau européen avec des normes miroirs pour empêcher que de la viande industrielle arrive par vagues déferlantes sur le marché français, ce qui induirait de toute façon un renforcement de l'industrialisation en France? Est-ce qu'il vaut mieux promouvoir aux côtés d'Interbev ce type de mesures miroirs et avoir plus de chances de gagner parce que l'ONG écolo ne passera pas que pour une ONG écolo, mais aussi pour une ONG qui défend les éleveurs, les plus petits éleveurs français? Est-ce qu'il vaut mieux faire ça et prendre le risque que son image soit utilisée? Ou est-ce qu'il vaut mieux ne rien faire avec, mais du coup, n'avoir à peu près aucune chance de gagner quelque chose comme des mesures miroirs au niveau européen? Ça, c'est quelque chose où les ONG ont des positions différentes. Je ne vais pas forcément les nommer ici, parce que c'est pas le but de juger telle ou telle pratique, et que toutes les stratégies, pour moi, peuvent se valoir. Mais ce qui est sûr, c'est que quand une stratégie est choisie, elle est faite en conscience, et ensuite il n'y aura que l'avenir qui pourra nous dire laquelle était la plus efficace.
Oui, d'accord. Alors du coup, quels sont les principaux lobbies de la viande? On a déjà parlé beaucoup d'Interbev et on va beaucoup en parler parce que c'est le principal lobby, mais aussi quel type d'institution c'est les lobbies de la viande et quelles sont les principales?
Alors, quand on parle de lobby de la viande, c'est important effectivement de clarifier. Il y a différentes structures. Il y a des structures plus connues dans le grand public, auprès du grand public, qu'une institution comme Interbev. C'est par exemple la FNSEA, c'est-à-dire les syndicats agricoles. Donc la FNSEA, c'est le syndicat agricole majoritaire, qui représente plusieurs centaines de milliers d'agriculteurs et d'agricultrices. Ce syndicat, par exemple, il est généraliste. C'est comme la Confédération paysanne ou la coordination rurale, ce sont des syndicats qui défendent l'ensemble des intérêts des filières agricoles et d'élevage. Donc, ce sont des organisations qui peuvent être considérées comme des lobbies de la viande, quelque part. Pour autant, c'est difficile de savoir précisément quelle part de leur activité est dédiée à la défense des intérêts des industries de la viande. Et ensuite, il y a quand même des... Par exemple, j'ai cité la Confédération paysanne, mais elle défend beaucoup l'élevage paysan. Elle assume le fait qu'il faut réduire la consommation de viande, qu'il faut arrêter les élevages industriels, etc. Donc, on n'est pas sur les mêmes positionnements selon les syndicats. Ensuite, il y a d'autres types d'organisations. Il y a les industries agroalimentaires. Si on parle de Herta, Bigard, Charal, toutes ces grandes marques qui vont fournir du jambon sous vide, du jambon industriel, qui vont fournir des nuggets, ce genre de choses, eh bien, ce sont des industries qui vont, à un moment donné, pouvoir ou souhaiter défendre les intérêts de leur filière. Et en même temps, ce sont des industries qui sont plutôt mues par, alors hormis peut-être certaines qui sont spécialisées sur la viande, 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 mais sinon la plupart en fait elles suivent plutôt les évolutions de consommation, les évolutions des attentes sociétales. Et donc par exemple quand elles ont vu que la réduction de viande était en cours, elles sont tout de suite mises à proposer des alternatives à la viande. Mmh. Alors ce sont des produits ultra transformés, gras, sucrés, salés, bourrés d'additifs, donc vraiment très mauvais pour la santé, mais elles se sont mises à faire des nuggets sans viande, des saucisses végétales, etc. Donc ce sont des industries qui vont défendre leurs produits, mais plus dans un objectif voilà, purement commercial que pour la défense des filières viande en général. Elles n'ont pas spécifiquement intérêt à ce que les gens consomment plus de viande que de saucisses transformées, produites avec beaucoup d'eau et d'additifs, en fait.
Ouais, elles s'adaptent, en fait.
Elles s'adaptent au marché, c'est ça. Et ensuite, il y a d'autres structures, notamment les organisations professionnelles. Et au sein des organisations professionnelles, il y a les structures qui représentent les intérêts des filières qui sont là pour communiquer. Et c'est le cas de Interbev, Envol. Donc Interbev, c'est les représentants de la filière de la viande rouge. Envol pour la volaille. Et Inapor, c'est la représentante des filières porcines. Et donc là, ces structures-là, elles visent à vraiment... Enfin, leur but premier, leur raison d'être, c'est de défendre les intérêts de ces filières.
Mmh. Et votre rapport, du coup, se centre vraiment sur ces institutions-là, sur ces interprofessions.
C'est ça.
D'ailleurs, vous faites une cartographie au début du rapport qui est passionnante. Ça montre à quel point toutes ces institutions sont vraiment hyper connectées. C'est un vrai maillage, mais au point où, en fait, il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans plusieurs institutions à la fois.
Exactement. Alors, j'inviterai les personnes à consulter ce rapport si elles veulent en savoir plus, mais c'est ça, ce qu'on a voulu comprendre, c'est parce que comme cette influence des lobbies de la viande, elle est subtile, et que prise une à une, les actions finalement ne sont pas choquantes, en réalité, quand on fait ce maillage et qu'on fait la somme de toutes ces pratiques d'influence et de tous ces réseaux d'influence, là, on constate ce que j'appelais tout à l'heure une influence tentaculaire. Et effectivement, on a des représentants, donc c'est beaucoup des hommes hein, qui sont à la fois présidents d'une interprofession, donc comme Interbev ou Inapor, mais qui vont aussi être vice-présidents ou secrétaires ou trésoriers d'une autre organisation qui fait la promotion de la viande, ou par exemple on va avoir Bigard qui va être impliqué dans une filière porcine en parallèle, etc. etc. Donc le fait d'avoir des postes comme ça, enfin des personnes qui sont sur plusieurs postes dans différentes organisations, va leur permettre de tisser ce réseau de compagnonnage et d'influence entre acteurs de secteur viande, en fait.
Ouais. Alors peut-être qu'on peut s'arrêter deux secondes encore sur Interbev, que vous décrivez vraiment comme un des lobbies les plus influents et les plus actifs. Et attention, tout secteur confondu, c'est-à-dire pas seulement de la viande, mais en fait c'est vraiment un poids, une influence, un pouvoir énorme.
Tout à fait. Si on prend... Alors après, il faut faire attention à comment est-ce qu'on mesure l'influence d'un lobby.
Oui.
Et ça a été vraiment le cœur de l'enquête, donc j'aimerais quand même en dire un mot. Il y a différentes façons de faire. On peut par exemple regarder les budgets déclarés à la Haute Autorité de la Transparence et de la Vie Publique, la HATVP, puisque depuis notamment les lois Sapin en France, il y a une obligation pour tout le monde, hein, pour les associations comme Greenpeace ou VVF, etc., c'est pareil. Il faut déclarer les budgets de lobbying accordés. Sauf que ces déclarations, vraiment, elles sont très vagues. Les organisations peuvent dire ce qu'elles veulent. Personne ne va vérifier si c'est vrai ou pas. Et en fait, c'est chaque organisation qui essaie d'estimer qu'est-ce qui est de l'ordre de l'influence ou qui n'en est pas. Et en fait, il y en a qui peuvent organiser une réunion avec des députés, ils peuvent dire que c'est une réunion de travail. D'autres, ils vont dire que c'est de l'influence. Bon.
Oui, il y a même des institutions dont vous parlez qui déclarent zéro en lobbying, alors que ça paraît assez surprenant parfois.
Alors, tout à fait. Alors après, encore une fois, voilà, c'est des déclarations qui sont relativement bancales. Et donc, je donne l'exemple aux députés. En fait, quand il y a une activité avec une députée, il faut le déclarer. Donc ça, c'est un cas particulier. Mais globalement, ce que je veux dire, c'est que ces budgets-là, ils donnent une première indication, mais elle n'est vraiment pas suffisante pour mesurer l'influence d'un lobby. Mmh. Et notamment, ce qui se passe, c'est que des associations vont avoir tendance à essayer de jouer au maximum la carte de la transparence. Elles vont plutôt trop en dire que pas assez, parce qu'elles vont vouloir vraiment contribuer à cet exercice de la transparence. Alors pour des organismes d'intérêt qui défendent les intérêts privés, ça va plutôt être l'inverse. Moins ils vont en déclarer, moins ils vont en dire, mieux ça va être. Bon, c'est pas une règle absolue et systématique, mais quand même, on peut bien imaginer que c'est très aléatoire, que ces déclarations sont très aléatoires. Et donc, d'autres façons de mesurer l'influence, c'est de regarder leur présence dans différentes sphères. Et par exemple, Interbev, elle est extrêmement, cette interprofession est extrêmement présente sur les réseaux sociaux, dans les écoles auprès des enfants, on pourra y revenir, mais aussi auprès des scientifiques et auprès des députés ou des sénateurs. Donc, en fait, ils ont une influence qui est vraiment, qui est partout, à tous les âges de la vie. Et ça, c'est pour nous un très fort marqueur. On peut aussi regarder les budgets publicitaires. Et donc, par exemple, si on compare avec Inapor ou Envol, donc les lobbies du porc et de la volaille, Envol, par exemple, va avoir des budgets bien plus minces en termes de lobbying. Par contre, elle va quand même mettre plusieurs dizaines de milliers d'euros dans de la communication sur les réseaux sociaux ou à la télé. Pareil pour Inapor, ils vont être moins bons en plaidoyer auprès des députés, mais ils vont avoir des centaines de milliers d'euros. Ils ont un budget qui avoisine les 2 millions d'euros en termes de com par an pour diffuser, pour inciter à la consommation de viande de porc. Donc voilà, donc en fait, on ne peut pas compter des points par réseau d'influence, par exemple. Mais par contre, ce qu'on a pu se rendre compte, c'est que d'un point de vue qualitatif, Interbev est de loin la plus puissante et la mieux installée en termes d'influence auprès des consommateurs et des consommatrices.
Ouais, et comme vous le dites, elle est absolument partout, elle multiplie les moyens d'action, les leviers d'action, et même à des endroits où Interbev a priori rien à faire, par exemple dans des panels sur des questions de repas végétariens.
Oui, tout à fait. Ça, je peux en dire un mot parce que j'ai fait partie pendant plusieurs années d'un groupe de travail interministériel qui visait à établir des règles pour l'application de menus végétariens dans les écoles. Donc c'est quand même des millions de menus par an, des millions d'enfants qui sont concernés chaque année. Et on avait obtenu ça parce que, enfin, en tant que représentant de Greenpeace, j'avais un poste dans ce groupe de travail, parce que nous avions beaucoup, beaucoup œuvré dès une loi qui était passée, une loi alimentation, pour le dire vite, qui était passée en 2017, enfin, qui a été préparée en 2017 et votée en 2018, puis au sein de la loi climat en 2020, sont deux gros processus où nous avons fait beaucoup de plaidoyer ou de lobbying positif, si on voulait jouer le jeu de cette appellation-là. Et on avait beaucoup discuté avec les différents ministères et les députés. J'avais rédigé un rapport déjà en fin 2017 expliquant que ce n'était pas normal qu'il y ait de l'influence des représentants de filières viande et des agro-industriels dans des instances qui parlent de nutrition dans les cantines. Ouais. Et quand ils ont mis en place, donc du coup ils ont voulu faire changer ça, et donc ils ont invité des associations autour de la table, et donc on a participé à des groupes de travail vraiment sur spécifiquement les menus végétariens. Donc pas uniquement tous les menus, mais vraiment les menus sans viande ni poisson. Et dans la loi, il est bien clair que les menus végétariens sont des menus sans viande ni poisson. C'est pas une question de mauvaise compréhension de la définition.
Ouais, ouais.
Eh bien, dans ce groupe de travail-là, il y a toujours des représentants d'Interbev, le lobby de la viande rouge. Donc voilà, donc c'est quand même merveilleux. C'est quand même, on se retrouve à discuter de menus sans viande avec un représentant de la viande. Et bien sûr, donc nous, on n'est pas là pour juste parler nutrition. Donc, j'ai bien évidemment soulevé ce point. Et j'ai pas vraiment eu de réponse en face. On m'a dit que la personne, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est aussi une façon d'influencer de façon subtile, c'est que les représentants de ces industries-là envoient non pas des personnes qui ont des formations en com, mais des personnes qui sont nutritionnistes ou diététiciennes. Donc, en fait, leur argument, c'est de dire, non, mais je suis, ou cette personne est diététicienne, donc, c'est pour ça que nous sommes dans ce groupe de travail. Et on défend l'intérêt général des enfants. Et donc, en fait, ils se retrouvent au nom d'Interbev à représenter des intérêts nutritionnels pour des enfants dans un groupe de travail sur les menus végétariens.
Ouais. Bon, moi, je trouve ça a du sens dans la mesure où le lobby de la viande nous vend des salades, qu'ils soient sur des panels végétariens, mais...
C'est ça.
Peut-être qu'on peut commencer pour classifier un peu les différents types de lobbying par le plus classique, celui qu'on a en tête. Moi, quand je pense lobby, j'imagine des discussions dans les couloirs, comme vous l'avez dit, dans les couloirs de l'Assemblée nationale, des rapports peut-être, ou des propositions de loi, ou des amendements envoyés aux députés, et où tout le travail est fait pour elle et eux. C'est bien comme ça que ça se passe, a priori.
Tout à fait. Alors là, on parle vraiment du lobbying au sens le plus strict, c'est-à-dire vraiment l'influence des lois et des réglementations. Et donc, ça se fait. Alors oui, on parle des couloirs. Bien évidemment, il y a des choses qui se passent dans les couloirs, mais c'est aussi beaucoup de rendez-vous directs, tout comme une association pourrait prendre rendez-vous avec un député si il ou elle l'accepte. Et pour ça, il y a des argumentaires qui sont envoyés, des propositions d'amendements, etc. Maintenant, je tiens à préciser quand même que les associations font ça aussi. Oui. Elles développent des argumentaires, elles proposent des amendements, etc. Ça paraît quand même important de le préciser parce qu'on n'est pas en train de dire que ce qu'ils font n'est pas normal de ce point de vue-là. C'est le jeu de la démocratie que les députés rencontrent tous les acteurs, les industriels, les représentants des filières viande, les représentants des filières végétales, les associations, et à partir de là, ils font leur travail. Enfin, ça, c'est la théorie. En réalité, certains députés refusent de voir les associations et ne vont recevoir que des industriels. Tout comme certains députés ne vont pas recevoir des industriels parce qu'ils savent que les arguments vont être notamment faussés. Et on nous avait fait passer, notamment des députés nous avaient fait circuler des argumentaires d'Interbev ou des argumentaires aussi de la FNSEA. Et en fait, il y a des arguments qui sont extrêmement raccourcis, des chiffres qui sont donnés sans source, qui sont complètement faux ou qui sont tirés d'études qui en fait ne sont pas du tout représentatives ou applicables au niveau français, etc. etc.
Donc
en fait, voilà, c'est important de remettre en question, c'est non pas uniquement le fait d'avoir des rendez-vous, ça pour moi c'est normal, mais vraiment de qu'est-ce qui est dit à ce moment-là et comment ils essaient de mettre de la confusion dans les questions scientifiques par exemple.
Ouais, et pour qu'on comprenne bien un peu comment ça marche dans le relationnel, c'est aussi la volonté d'établir une forme de collusion, même de copinage avec les personnes de pouvoir qui vont prendre des décisions. Ça passe par des invitations à des bons déjeuners, et même vous parlez dans le rapport de clubs parlementaires dédiés à ces questions. J'ai trouvé ça assez fou.
Tout à fait. Alors ça, c'est une pratique qui est relativement ancienne. Il existe donc des clubs parlementaires, par exemple le club des Amis du Cochon.
Ça dit son nom.
Énorme, voilà. Donc tout est dit. Et en fait, ce que certains représentants politiques affirmaient eux-mêmes dans des interviews qu'on peut glaner ici et là sur le net, c'est qu'en fait, on discute mieux autour d'un bon verre de vin rouge et d'une bonne tranche de pâté. Je cite, hein. Je ne sais pas ce que je pense, mais je cite. Oui. Voilà, je suis désolée pour toutes les personnes véganes qui écouteront ce podcast. Mais en tout cas, c'est ça, comme ça que ça se passe. On fait ce qu'on appelle du copinage, c'est-à-dire qu'on va établir des liens de confiance pour ensuite mieux faire passer certaines propositions. Et les clubs parlementaires sont mis en place par des gros cabinets de consulting, des gros cabinets de com, comme Publicis par exemple, qui est un énorme cabinet de lobbying et auquel ont recours des organisations, des représentants des filières agricoles ou des filières d'élevage.
Et ça marche en fait comme influence, c'est une forme d'influence soft qui ensuite facilite un peu la transmission d'éléments de langage super rapidement et qui influence un peu les mentalités générales des députés qui forcément ont bien mangé, les personnes sont agréables, ça les influence en fait.
C'est ça. Alors là encore, c'est très subtil et très fin. On ne peut pas dire que grâce à tel petit déjeuner ou déjeuner organisé avec l'industrie du foie gras, par exemple, derrière, telle loi a été votée. Ouais. C'est pas aussi direct. Pour autant, il y a quand même des témoignages qui existent, de représentants qui disent que, effectivement, quand on a bien discuté et bu des coups avec telle et telle organisation, peu de temps après, telle loi est passée et... Ah, bah tiens, surprise, ça défend les intérêts du foie gras ou du porc ou de la viande rouge. Donc, on ne peut pas établir de lien de causalité directe. Ça, c'est impossible parce qu'on ne peut pas être dans la tête d'un représentant politique, en fait, puisque la décision se prend dans son esprit. Mais par contre, pris bout à bout, ça s'est prouvé. Toutes ces façons d'influencer, tous ces rendez-vous officiels, ces rendez-vous plus officieux, les communications faites, les publicités aussi sur les réseaux sociaux, à la télé, etc. Tout ça forme un ensemble qui va influencer les décideurs et les décideuses politiques qui sont, comme tous les êtres humains, des personnes influençables, en fait.
Ouais. Vous donnez un exemple que je trouve parfait dans le rapport, c'est le concept, mais en fait l'élément de langage agri-bashing qui a été créé par la FNSEA, donc vous le disiez, le principal syndicat et lobby des agriculteurs, et qui a tout de suite été repris par les politiques au moment de sa création.
Oui, alors je crois bien que c'est un terme plus ancien, mais en tout cas c'est clair qu'il a été mis sur le devant de la scène par la FNSEA. Alors là, c'est un peu différent dans le sens où c'est pas ce terme-là qui a permis de faire voter immédiatement telle ou telle loi. En revanche, ce qui s'est passé, c'est que la FNSEA, en brandissant ce terme d'agribashing, c'est-à-dire le terme agribashing, d'après la FNSEA notamment, c'est le fait que des organisations, des associations ou des individus vont dénigrer les pratiques d'agriculteurs ou les agriculteurs eux-mêmes. Donc le fait de s'introduire dans des abattoirs pour filmer, c'est de l'agribashing. Le fait de dire que les pesticides de synthèse c'est mauvais pour la santé, c'est de l'agribashing. Voilà, le fait de dire qu'il faut manger moins de viande, c'est de l'agribashing. Voilà, tout ça, tout ce qui pourrait porter atteinte de près ou de loin à des pratiques agricoles est considéré comme de l'agribashing. Sauf que, en réalité, les agriculteurs qui portent ce constat d'agribashing se victimisent, se mettent vraiment dans un positionnement de victime en disant les gens ne nous aiment pas, on est victime d'agribashing. Alors qu'en fait, c'est complètement faux et au moment de la pandémie et après, à la fin des confinements, il y a des sondages qui ont été faits et qui ont montré que les consommateurs et les consommatrices, globalement, enfin les Français et les Françaises, aimaient les agriculteurs et les agricultrices. Enfin, qu'il n'y avait vraiment pas du tout, qu'à aucun moment donné, il y a eu un désamour de la part de la population française envers les agriculteurs. En revanche, il y a un désamour ou un désaveu de certaines pratiques, de pratiques industrielles, comme les pesticides, les engrais de synthèse, l'élevage industriel, etc. Et ça, le pouvoir de la FNSEA, enfin là où elle a été très puissante, c'est que en mettant ce terme sur le devant de la scène pour quelque chose qui était pas complètement faux, c'est-à-dire que oui, il y a une remise en question des pratiques, pas des agriculteurs, mais de leurs pratiques, Ça leur a permis d'obtenir, entre autres, la création de la cellule de gendarmerie Déméter. Et ça, je ne sais pas si tout le monde connaît, mais pour moi, c'est un véritable scandale. Alors, c'est une aparté par rapport à l'enquête, parce qu'on n'en parle pas à l'intérieur.
Oui, mais il faut expliquer, parce que c'est vraiment phénoménal, et ça a servi à ça, en fait, de parler d'agribashing, de criminaliser, en fait, les activistes animalistes et écolos.
Exactement.
Dans cette loi, en 2019, par la création de cette cellule d'enquête.
Exactement, et donc cette cellule de gendarmerie, cette cellule d'enquête a été créée à la demande de la FNSEA pour criminaliser, pour surveiller, mettre la pression et donc réduire la capacité d'action des activistes animalistes ou écologistes. Et donc ça, c'est dramatique parce que ça contribue à ce climat, ça contribue à cette criminalisation générale des activistes, des militants et des militantes au niveau national sur les enjeux de justice écologique, sociale, animale, etc.
Ouais, c'est un super exemple de lobbying bien exécuté et avec des conséquences sur la possibilité même de contester en fait le pouvoir de ces industries.
Tout à fait.
Les lobbies sont présents, ils sont aussi présents sur le terrain et par exemple dans des salons tout au long de l'année. Et alors on est en plein dedans là, on est dans le moment du Salon international de l'agriculture à Paris. En quoi est-ce que c'est un événement important pour les lobbies ?
Les salons nationaux sont des moments importants de rencontre parce qu'ils permettent de faire venir beaucoup de monde au même endroit et donc de créer des liens, créer de la confiance, créer de la connexion tout simplement entre différents acteurs. Et le SIA, donc le Salon international de l'agriculture, c'est l'événement principal des filières agricoles en France chaque année. Mmh. Et au-delà de la France, puisque ça fait venir des gens de l'étranger. Ce salon de l'agriculture, c'est une espèce de... Pour les personnes qui ne sont jamais allées, je sais pas si c'est à faire une fois dans sa vie, mais en tout cas, ça dit quelque chose de notre modèle. C'est-à-dire qu'on y va, c'est une espèce de... C'est un très grand hall d'expo, une grande foire, en fait, où on va retrouver des mises en avant de tous les pans des filières agricoles françaises. Donc ça va aller avec... Enfin, il va y avoir des stands et des entreprises qui travaillent sur les semences, d'autres sur les appareils de production, d'autres sur des robots et des machines agricoles, d'autres sur les filières viande, d'autres sur des enjeux de santé autour de l'alimentation. Enfin voilà, ça va être vraiment... ça va rassembler beaucoup, beaucoup d'enjeux autour de la filière agricole et alimentaire. Et filière agricole et alimentaire, attention, bien évidemment, ce SIA, c'est une vitrine pour l'agriculture conventionnelle, l'agriculture industrielle. On va y retrouver des stands d'associations, on va y retrouver des stands de la bio, etc. Parce que c'est difficile de se passer totalement d'une présence là-bas et de le boycotter à 100%. Mmh. Enfin, en tout cas, chaque organisation fait son choix vis-à-vis de cette présence ou non. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un rendez-vous à la fois majeur et à la fois très orienté à agriculture productiviste. Et pour Interbev, c'est un élément phare. Chaque année, ils mettent entre 1 et 2 millions d'euros pour faire leur communication sur les salons nationaux. Et le salon d'agriculture, c'est le plus gros salon où ils sont. Et quand on y va, c'est vraiment déroutant quand on s'y attend pas, parce que le stand d'Interbev, si vous y allez, en fait, c'est un stand gigantesque. Ouais. Il prend beaucoup, beaucoup de place. Et c'est non pas écrit, il n'y a pas écrit Interbev en gros ou vive la viande rouge. Il y a écrit naturellement flexitarien. Il y a écrit aimez la viande, mangez-en mieux. Et aux côtés du grand stand qui est très, avec des codes très healthy, pop, c'est-à-dire très santé, nutrition, sport, ils vont mettre en avant des arguments pour soi-disant aimer la viande et en manger mieux. Et en fait, tout leur stand est tourné autour de leur concept de naturellement flexitarien. Et en fait, ce qu'a fait Interbev, c'est que pour ce salon et pour toute leur campagne de com, ils ont détourné la signification du terme flexitarien. Et ça aussi, c'est une grande pratique d'influence des lobbies, quels qu'ils soient. C'est pareil pour le sucre ou même pour le cracking ou le fracking, pour l'extraction de gaz de schiste. Il y a eu ce détournement aussi de champ lexical, de sémantique. C'est-à-dire que Interbev fait croire aux personnes, fait croire à des millions de consommateurs que être flexitarien, c'est de manger de la meilleure viande, et donc de manger de la viande française. Comme si la viande française était tout le temps et parfaitement durable. Alors que déjà, c'est pas le cas. Et ensuite, ils ont détourné le terme, c'est-à-dire que pour eux, si on mange une meilleure viande, il n'y a pas besoin de réduire la consommation de viande. Et donc, son énorme stand, plutôt, est composé d'informations sur ça, sur le flexitarisme qui consiste à manger de la viande française, en fait. Et à côté de ça, vous avez carrément des ateliers de sport avec des petits instants minutes sport et nutrition, sport et diététique, pour vraiment donner une image de la consommation de viande très saine, associée à un mode de vie presque un peu parfait, un mode de vie un peu... urbain, sain, etc. Et quand je dis ça, bien sûr, c'est selon les concepts, selon les critères d'Interbev. Ouais. C'est pas ma vision des choses.
Bon bah venons-en à des formes de lobbying encore plus insidieuses que ça. Je dois dire, je suis allé d'indignation en lisant votre rapport, et ça a fait beaucoup réagir, et à juste titre, je pense, la question de l'influence sur les enfants. Vous prouvez dans ce rapport que les lobbies de la viande cherchent à influencer directement les enfants. Comment est-ce qu'ils s'y prennent ?
Oui, tout à fait. Alors, ils font pas que chercher à le faire, ils y arrivent bien, ça c'est, ouais. C'est prouvé. Alors là, pour ça, on s'est basé beaucoup sur des données d'Interbev elle-même. C'est-à-dire que on n'est pas allé seulement nous enquêter sur le terrain. On a vraiment pris les rapports d'activité qui donnent des chiffres qu'on peut pas remettre en question puisque c'est l'interprofession elle-même qui les donne. Et en fait, ce qu'ils montrent, c'est que par exemple, en l'espace de quelques années, ils ont touché plus de 500 000 enfants, donc 1,5 million d'enfants. Je crois que c'est de 6 à 10 ans ou 6 à 11 ans, grâce à leur campagne de communication avec la famille Joliprès. Et tout ça, en fait, c'est un concept de communication qu'ils ont mis en place. Toujours pareil, autour de manger bien, manger mieux, manger de la salade, des légumes, des fruits frais et avec de la viande. Et donc, ils ont déployé énormément d'outils. Donc, ça va, pour être très concrète, ça va des kits pédagogiques avec, par exemple, des quiz sur qu'est-ce qu'une boulette de viande, à des recettes sur comment cuisiner de la viande, à des posters avec les différents morceaux de viande d'un animal, etc. Ou par exemple, des quiz sur... aujourd'hui, une ferme, est-ce qu'elle produit son énergie ? Eh bien, ça, on va avoir le choix entre oui, elle fait de la méthanisation, oui, elle a des panneaux solaires, ou oui, un peu de tout ça. Bon, eh ben, en fait, l'enfant n'a pas trop le choix. Ou alors, il va y avoir des coloriages pour les enfants, et ça va représenter une ferme avec des éoliennes, des panneaux solaires, un petit méthaniseur. Les animaux gambadent dans les prés, ils ont le sourire aux lèvres, les vaches ont presque une fleur entre les dents. Enfin voilà, c'est vraiment tout un concept de communication extrêmement idyllique auprès des enfants. C'est que par exemple, il y a l'œil du 20h à la télévision qui avait fait un reportage auprès d'enfants. Il mettait en lumière le témoignage d'une maman qui avait fait à manger à sa fille le soir sans viande ni poisson parce que sa fille en avait mangé à l'école donc elle avait pas envie de lui donner beaucoup de viande. Et sa fille est rentrée le soir en disant « Mais maman, je comprends pas, c'est pas équilibré le repas, il y a pas de viande ». Et donc là, la mère comprend pas parce que d'habitude, elle mange assez peu de viande. Enfin, elle-même cuisine très peu de viande. Elle dit « Mais pourquoi est-ce que tu dis ça ?» C'est étonnant. Elle lui dit « Ben oui, il y a une dame qui est venue à l'école aujourd'hui nous en parler et nous a dit qu'il fallait de la viande tout le temps. » Et donc là, la mère fait son enquête. Elle se rend compte qu'en fait, c'était des représentants des viandes, pas du tout des nutritionnistes indépendantes qui étaient intervenus pour dire aux enfants qu'ils fallait consommer de la viande.
Qui proposent des animations gratuites aux c'est enseignantes ça. Et enseignants. Ouais.
Voilà.
C'est même pas seulement les enfants, en fait, bon, c'est ce qui est le plus choquant, mais plus largement, c'est les jeunes qui sont une cible privilégiée par ces lobbies, et ça passe notamment par des énormes campagnes de publicité.
Tout à fait. Et alors là encore, je remercie les industriels de la viande de donner autant de chiffres dans leurs propres rapports d'activité, parce que ce sont nos sources principales pour ces données-là, parce que sinon on ne pourrait pas les analyser. En fait, l'influence sur les réseaux sociaux, et ça c'est un vrai problème, c'est que contrairement à la publicité à la télé, elle n'est pas du tout autant mesurable. Et donc, c'est difficile de l'identifier. Sauf si les industriels, les lobbies eux-mêmes mettent en place des campagnes, des sondages, etc. et les diffusent. Donc, si on regarde ces données-là, donc des lobbies eux-mêmes, on se rend compte qu'ils ont déployé des campagnes de communication massives sur les réseaux sociaux pour toucher tout le monde, mais surtout les jeunes. Parce qu'en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a une tendance à la réduction, de la consommation de viande en France. Globalement, les Français, les Françaises, et en particulier les jeunes, mangent moins de viande, voire beaucoup moins de viande. Alors ça, c'est vrai, par contre, pour la viande rouge et pour le porc. Mais pour la volaille, par contre, c'est en augmentation.
Oui, ça augmente. Ouais.
Ça augmente. Donc, en fait, c'est juste un report. Donc, ça reste très inquiétant pour le futur, pour en termes d'écologie ou de bien-être animal. En revanche, pour la filière viande rouge, c'est très inquiétant parce qu'ils perdent des clients et des clientes, en fait. Et donc, ils ont l'une de leurs cibles favorites. En plus des enfants très jeunes, ce sont les adolescents ou les jeunes, les millennials. Donc les jeunes qui ont aujourd'hui une vingtaine d'années.
Ouais.
Et donc ils vont faire des grosses campagnes sur les réseaux sociaux en reprenant les codes des plus jeunes. C'est-à-dire en reprenant, par exemple, il y a une affiche d'Inapor, donc la filière porcine, qui montre une fille, une jeune fille ou une jeune femme, je sais pas si elle danse, comme si elle écoutait de la musique, mais en tout cas elle secoue les cheveux avec dynamisme et elle a des cheveux roses. Donc vraiment, ils reprennent ces codes à la fois couleur, à la fois même musique pour ce qui est de la bande son, très associée à la pop culture, et donc il va parler à ces jeunes ou jeunes adultes.
D'ailleurs, en anglais, je crois que c'est la campagne Let's Talk About Pork qui a été lancée par Inapor, qui a touché, vous le dites dans le rapport, 74 millions de millennials en Europe en 2020.
C'est ça.
Et le plus choquant, c'est qu'en fait, cette campagne a été financée par l'Union européenne.
C'est ça. Alors ça, c'est aussi un gros point et que je trouve personnellement particulièrement choquant, c'est que pas toutes les communications, mais toute une partie des communications des lobbies de la viande est financée par l'argent du contribuable au niveau européen. Donc par l'argent des Français, l'argent des d'Allemands, etc. Et donc il y a effectivement, je crois que c'est un budget au total de 250 millions d'euros qui est attribué aux filières agricoles, aux filières d'élevage notamment pour soutenir la consommation de viande, alors que à titre de comparaison, parce que c'est toujours important de remettre en perspective ces budgets, hein, parce que en soi 250 millions au niveau européen, c'est pas grand-chose. Par contre, pour les filières de fruits et légumes, ça va être moins de 20 millions d'euros de budget pour soutenir la consommation.
Ah oui, et les légumineuses, j'imagine pas du tout non plus.
Oui, alors faudrait que je revoie, je me rappelle plus pour les légumineuses, mais ce qui est certain, c'est que pour le végétal, c'est bien bien moins que pour la viande,
ouais.
Alors que tous les scientifiques le disent, il est urgent de consommer beaucoup plus de fruits et légumes, beaucoup plus de fruits et légumes frais notamment, et de légumineuses en parallèle, et beaucoup moins de viande en fait.
Et alors vraiment, ils font feu de tout bois pour toucher les jeunes. Par exemple, on retrouve Interbev dans des fêtes étudiantes de certaines grandes écoles.
Oui, alors je crois pas que ce soit des représentants vraiment d'Interbev, mais par contre, Interbev va pouvoir sponsoriser, par exemple, des barbecues dans des grandes écoles comme AgroParisTech. Et donc oui, on a réussi dans notre enquête à retrouver des fils Twitter, par exemple, enfin des posts Twitter, ou les étudiants, ou des posts Facebook, où on voit les étudiants ravis de consommer de la viande. Et donc, en fait, je pense pas que les étudiants, par exemple, étaient payés par Interbev, mais c'est juste que extrêmement heureux, ils font la communication à tous les étudiants en disant « Venez, on va faire la fête, ça va être super. » Et en plus, on a de la viande d'Interbev, donc on va pouvoir se faire plaisir, en fait.
Ça passe aussi par des brochures de santé. Par exemple, en 2016, la brochure « Santé, n'oubliez pas la viande » à destination des cabinets de médecins a été distribuée dans presque 8000 salles d'attente et ça a touché 22 millions de patients et 100% des villes de plus de 100 000 habitants. C'est gigantesque, en fait.
Oui, c'est gigantesque. Alors, ça, donc, c'était en 2016. On n'a pas retrouvé de nouvelles informations en ce sens pour les années plus récentes. Je tiens quand même à le nommer. Ça s'est peut-être arrêté. Mais notamment parce que depuis la pandémie Covid, depuis le début de la pandémie, il y a eu un arrêt dans certaines salles d'attente de distribution de brochures papier pour des raisons d'hygiène. Donc, c'est peut-être pour... Je ne sais pas si c'est pour ça ou si c'est vraiment une décision d'arrêter ce type d'influence. Mais en tout cas, oui, ça montre encore une fois jusqu'où et sont prêtes à aller les interprofessions. Et notamment... Interbev qui vont diffuser des brochures aux médecins et aux infirmiers, aux infirmières pour les influencer et que eux-mêmes en retour influencent leurs patients et leurs patientes.
À manger plus de viande avec sur la base d'arguments un peu fallacieux et pas fondés sur le plan de la nutrition quoi.
Alors ça dépend ce qu'on entend par pas fondé. Attention parce qu'en fait, par exemple, sur quoi insistent beaucoup les industriels de la viande, c'est que la viande contient beaucoup de fer et qu'il y a des gens qui manquent de fer. Et ça c'est vrai. Enfin, je veux dire que la viande contient du fer, beaucoup de fer, c'est vrai, et que des 3% des femmes manquent de soit en aimier, pas des femmes pardon, mais des personnes sont anémiées, c'est vrai aussi.
Oui.
Mais par contre, eux ils vont associer ça et ils vont passer sous silence le fait que la viande rouge a été classée comme probable cancérigène par l'OMS, que les charcuteries c'est classé cancérigène par l'OMS, que ça peut être très bénéfique pour la santé de consommer principalement voire que des produits d'origine végétale. Etc., etc. Donc c'est toujours ça en fait la finesse d'Interbev, c'est qu'ils donnent certaines informations mais pas d'autres, ils en omettent et surtout ils martèlent ce message, ils le martèlent partout, aimez la viande, mangez-en mieux, la viande c'est bien pour le fer, la viande c'est bon pour la santé. Et c'est ça qui va contribuer vraiment à cet accaparement des esprits, j'ai envie de dire.
Il faut voir à quel point toutes ces campagnes sont vraiment super rodées. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie de l'argent des lobbies qui sont dépensés pour mener des études en amont, pour analyser un peu les raisons du désamour, par exemple, pour leurs produits, les raisons, comme vous l'avez dit, de la baisse de consommation de viande rouge, pour mieux les récupérer et les instrumentaliser. Donc les jeunes veulent être belles, c'est montré par des études financées par les lobbies. Bon, bah, Inapor va capter ça et dépeindre le fait que manger de la viande, bah, c'est rebelle. Les gens se disent faut réduire la viande, et beaucoup s'identifient comme flexitariens sans vraiment réduire leur consommation. Et hop, Interbev lance une campagne naturellement flexitarien. Bah, c'est incroyable, en fait, ils s'adaptent vraiment à ce qui va le mieux marcher chez les gens.
Oui, et je pense que, en fait, pour conclure sur ça, en fait, on a affaire à de véritables professionnels.
Ouais.
Interbev, c'est 30 millions d'euros de budget annuel. On n'est pas dans une influence d'une petite association de quartier. On est avec des organisations nationales en place depuis plusieurs dizaines d'années et qui ont très peur pour la réduction de la consommation de viande. Donc, ils vont mettre en œuvre beaucoup, beaucoup de moyens pour enrayer cette baisse de la consommation, voire la renforcer.
Et ce que vous dites dans le rapport, c'est aussi que ça exploite en fait les faiblesses du service public. Parce que le simple fait de proposer des services gratuits à des enseignants qui ont besoin de support pédagogique pour parler de nutrition à leurs élèves, ou à des personnels de cantine qui veulent se former, mais qui du coup se retrouvent avec des formations gratuites pour des plats carnés payés par les industries, et ben en fait c'est parce qu'il n'y a pas de formation publique assurée par l'État, c'est ça?
C'est ça. Et on est même dans un contexte où les moyens accordés aux professeurs, aux instituteurs, aux institutrices pour faire leurs cours ou leurs ateliers est quand même en baisse. Enfin, je veux dire, les conditions dans l'éducation nationale sont difficiles, on le sait, elles sont de plus en plus difficiles. C'est un secteur en crise globalement. Donc, quand vous avez un site internet hyper bien fait, en deux clics, vous réservez une sortie, vous occupez de rien du tout. L'organisation arrive, elle paye le bus, elle organise la venue du bus, elle l'emmène sur la ferme. Donc, en fait, c'est beaucoup plus simple pour des profs finalement d'accepter ça que de rien faire. Et on avait eu un échange avec une, je sais plus, une institutrice ou une directrice d'école, mais elle disait, écoutez, on sortait de la pandémie, on sortait du confinement, les enfants avaient besoin de sortir. Entre une sortie où ça va leur faire du bien, ils vont voir des animaux, ça va les sensibiliser. Et ils vont peut-être parler un peu trop de viande et juste rester en classe enfermé parce que moi j'ai même pas 400 € de l'école pour payer le bus. Eh ben, je choisis la sortie en fait. Donc, même certains qui ont conscience des dérives vont accepter parce qu'ils ont préféré faire ça plutôt que rien. Donc, on est vraiment face à exactement ce que vous dites, des institutions privées, des représentants d'intérêts privés qui vont s'infiltrer dans les failles, dans les interstices laissés par le gouvernement français.
Et on peut en venir à un des points aussi saillants de votre rapport, qui est vous vous arrêtez sur la pratique du science washing. Est-ce que vous pouvez expliquer de quoi il s'agit?
Alors le terme est moins connu que le greenwashing par exemple, mais c'est le même principe, c'est-à-dire que sous couvert d'arguments scientifiques, on va en fait faire passer ses propres idéaux. Donc dans le cas de la viande, c'est qu'on va utiliser, il va y avoir par exemple des sites internet qui vont avoir des allures scientifiques avec des noms très scientifiques. Il va y avoir des interviews de scientifiques, par exemple, mais le tout va être orienté vers une plus grande consommation de viande ou bien orienté vers une décrédibilisation des arguments qui seraient anti-viande ou anti-élevage. Donc là, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup et après, bon, on pourrait vraiment dérouler le fil un moment, mais par exemple, je parle d'interviews de scientifiques, ils vont faire des partenariats ou simplement avoir recours à des professionnels de l'INRA, des chercheurs de l'INRA, par exemple, donc de l'INRAE, pardon.
Donc l'INRAE, c'est quoi? C'est une des principales institutions de recherche sur l'agriculture, en fait, et l'élevage.
C'est ça, c'est l'Institut national de recherche agronomique et environnementale. Donc c'est vraiment c'est la référence française pour tout ce qui est recherche agronomique. C'est un peu comme l'IFREMER pour les sujets du poisson et de la pêche. Ce sont des instituts qui ont accompagné l'industrialisation de ces secteurs, qui ont vraiment travaillé sur de la génomique, par exemple, pour améliorer la croissance des animaux. Mais en parallèle, à l'intérieur, il y a aussi des chercheurs et des chercheuses qui sont extrêmement mus par l'intérêt général et par l'urgence climatique ou biodiversité, et qui vont travailler sur le développement de l'agriculture biologique, sur les services écosystémiques ou d'autres enjeux dont on a vraiment besoin. Donc voilà, on peut pas dire que l'INRAE est positionné à un certain endroit, ça dépend vraiment des axes de recherche qui sont pris et des orientations stratégiques annuelles ou pluriannuelles.
D'ailleurs, vous parlez dans votre rapport d'une publication, Quelques idées fausses sur l'élevage et la viande, qui a été dénoncée en interne de l'INRAE par un syndicat.
Tout à fait, donc voilà, ça c'est vraiment une belle illustration des dissensus qu'il peut y avoir en interne, où des chercheurs vont vouloir soutenir l'élevage et parfois à coup d'arguments qui ne tiennent pas la route. Mais en interne, il y en a qui ont réagi, heureusement qu'ils l'ont dénoncé publiquement en disant que c'était en désaccord avec ce qui avait été dit et en faisant appel à d'autres sources scientifiques pour démonter finalement le premier argumentaire. Donc c'est là qu'on voit toutes les tensions et que voilà, moi je ne m'hasarderais pas à dire que l'INRAE a tel ou tel positionnement ou est vendu par exemple à des lobbies, pas du tout. Ça dépend vraiment de comment est-ce que c'est fait, dans quel cadre. Et puis en plus, souvent ce que disent les chercheurs scientifiques, et en particulier l'INRAE, ils disent rien de faux, ils disent que des choses vraies. Ils vont par exemple expliquer que je suis désolée pour les personnes véganes, mais ils vont quand même expliquer que l'élevage, par exemple, de chèvres ou de bovins laitants, quand il y a accès à l'extérieur, va permettre d'entretenir des paysages et les maintenir ouverts. Et ça permet de maintenir une biodiversité associée, qu'elle soit végétale ou animale. Donc ça peut avoir des effets bénéfiques pour la biodiversité de l'élevage. Ça ne veut pas dire qu'il faut absolument de l'élevage pour maintenir cette biodiversité-là. On pourra envisager d'autres façons de faire, avec des animaux sauvages, etc. Mais dans un contexte où en France, on a décimé les grands herbivores comme les aurochs, où on n'a plus rien, où tout est sous contrôle des humains, c'est pas inintéressant de se dire que certains élevages permettent de maintenir la biodiversité. Enfin, en tout cas, c'est pas faux de dire ça. Et donc, il y a des scientifiques qui travaillent sur ces questions, qui vont les mettre en avant. Et c'est normal, c'est leur métier. Peut-être que si on les écoutait en entier ou parlait pendant des heures, ils diraient aussi les effets négatifs de l'élevage dans certains cas. Mais sauf que Interbev ou d'autres lobbies vont prendre ce qui les arrange, vont prendre certaines phrases, certaines idées et les mettre au service de leurs propres idéaux, que ce soit dans un rapport ou un site internet par exemple. Et donc, c'est ça qu'on appelle science washing, c'est vraiment comment détourner la science, d'une part, et apporter de la confusion dans les faits scientifiques, d'autre part.
Ouais, et puis là, c'était vraiment flagrant dans cette publication de l'INRAE, qui avait été co-rédigée par Jean-Louis Perrault, qui est donc quand même directeur scientifique adjoint agriculture à l'INRAE, donc c'est pas rien, et qui a en fait participé à la campagne, la fameuse « Naturellement flexitarien » de Interbev, avec justement des petits entretiens tronqués qui mettent le focus uniquement sur les points qui servent les intérêts d'Interbev in fine.
Exactement, et Jean-Louis Perrault, en fait, serait très intéressant de l'interroger et de comprendre est-ce que la façon dont on a étudié cette interview est celle à laquelle il s'attendait, est-ce que ça lui convient, comment ça se fait qu'un scientifique contribue à une participe à une campagne de communication d'un représentant de la filière viande rouge. Donc ça, moi, pour moi, ça me questionne. Je comprends pas qu'un directeur de recherche INRAE contribue à une campagne de com de l'industrie de la viande rouge, alors même qu'il faut réduire les consommations de viande pour des questions écologiques et sanitaires.
Ouais.
Bon, ça, c'est, mais il faudrait lui poser vraiment la question pour savoir comment est-ce qu'il l'a fait, pourquoi et qu'est-ce qu'il en pense.
Je crois que la question des nitrites dans la charcuterie, par exemple, c'est vraiment un cas d'école de cette question du science washing. Donc peut-être qu'on peut s'y pencher un peu et déjà rappeler ce que sont les nitrites et en quoi c'est un problème en fait pour les lobbies de la charcuterie et du porc.
Oui, alors les nitrites, ce sont des composés qui sont utilisés par l'industrie, notamment pour la conservation des charcuteries. Et c'est utilisé pour la conservation, donc c'est très important pour eux parce que c'est ce qui leur permet de faciliter leur distribution, leur industrialisation. Sauf que il y a quand même des scientifiques qui ont lancé l'alerte sur ces nitrites. Et donc aujourd'hui, il y a des industriels, notamment la FICT, le lobby de la charcuterie, qui se bat pour surtout créer de la confusion là-dessus et laisser croire que les nitrites sont sans danger.
En effet, le Centre international de recherche sur le cancer de l'Organisation mondiale de la santé, de l'OMS, a classé la viande transformée, et notamment la charcuterie, comme cancérogène en 2015. Et le lien entre l'exposition aux nitrites via la viande transformée et le cancer colorectal a été confirmé dans un rapport de juillet 2022 de l'Agence nationale de sécurité alimentaire, l'ANSES. Et par ailleurs, les autoristes de ce rapport soulignent qu'une association est suspectée entre la consommation d'additifs nitrés et divers autres cancers. Ce qui s'est passé concrètement, c'est qu'il y a des scientifiques d'une institution qui s'appelle l'Institut du Porc, domicilié exactement à la même adresse qu'INAPOR, c'est-à-dire le principal lobby du porc, donc c'est quand même un peu bizarre, parce que c'est censé être un institut de recherche, donc des scientifiques de cet institut du porc qui niaient les risques des nitrites.
Exactement, mais ça c'est... Alors ça, là on rentre dans la question des instituts techniques, c'est une partie de l'enquête que l'on a fait, mais ça mériterait d'être creusé pour que ce soit plus fin. Mais ce qui est sûr, c'est que les instituts de recherche, qui sont censés être des instituts de recherche relativement indépendants finalement, se retrouvent au sein de leur comité de pilotage avec des représentants des industries, ce qui n'est pas complètement incohérent non plus, hein, quand on travaille sur, les conditions d'élevage des porcs par exemple, ça paraît pas complètement incohérent que des gens qui élèvent les porcs soient là pour dire qu'est-ce qui est crédible, qu'est-ce qui ne l'est pas, etc. Pour autant, là où il y a des dérives, c'est quand ces instituts techniques prennent position pour défendre certains produits alors que ces produits sont incriminés par d'autres scientifiques, et ça a été le cas pour le sujet des nitrites.
Ouais, parce qu'il faut voir que la façon dont ça fonctionne, le science washing, c'est aussi une forme de production du doute pour essayer de noyer le consensus scientifique dans plein d'études qui sont financées pour aller dans l'intérêt, en fait, dans leur conclusion, des lobbies. Donc par exemple, là, dans le cas des nitrites, les lobbies vont financer des études qui vont à l'encontre des études qui disent qu'il y a des dangers, donc financer des scientifiques qui vont conclure qu'il n'y a pas de souci avec les nitrites, et ensuite faire du cherry picking parmi les études pour ne mettre que celles-ci en avant, et après se rapprocher de scientifiques pour utiliser leur autorité en les payant, pour que ces scientifiques soient à la proue en fait et disent « il n'y a pas de souci avec les nitrites ». Vous parlez par exemple dans le rapport de Jean-Michel Le Serre, qui est une figure reconnue, un médecin nutritionniste, et qui a pareil défendu les nitrites et participé lui aussi à la fameuse campagne « Naturellement flexitarien ».
Tout à fait. Alors Jean-Michel Le Serre, c'est vraiment un cas particulier, parce qu'il y a autant certains scientifiques qui peuvent être utilisés ou faire ça sans penser qu'ils vont contribuer à de la consommation de viande. Autant Jean-Michel Le Serre, c'est quand même un personnage qui est très impliqué et réputé pour être très proche des agro-industriels, enfin des industriels en général. Il est de l'Institut, de la fondation de l'Institut Pasteur, pour bien le remettre. C'est pas rien, quoi. La fondation de l'Institut Pasteur, c'est très reconnu.
Ouais.
Et c'est quand même une personnalité qui a été la justice. L'a accusé d'avoir reçu des 25 000 euros des industries pharmaceutiques dans un moment où il faisait partie d'une autorité, d'une des grandes autorités de la santé. Donc ça, on est vraiment en plein conflit d'intérêts. Je crois que c'est de l'association Anticorps de mémoire qui avait dénoncé ça, et donc il aurait quand même reçu 25 000 euros. Bon, là, vraiment, dans un cas flagrant de conflit d'intérêts prouvé, et c'est vraiment un cas grave.
Oui, en fait, c'est pas le cas le plus représentatif, finalement, de la façon dont se créent les conflits d'intérêts avec les scientifiques.
Eh bien, c'est à la fois représentatif, ça l'est pas, c'est-à-dire que c'est un cas parmi d'autres. C'est-à-dire qu'il y a vraiment de tout, en tout cas, à mon sens, dans le science washing. Il y a vraiment des personnes très impliquées, comme Jean-Michel Le Serre, et qui savent très bien ce qu'elles font, et d'autres où je pense que c'est un peu plus malgré elles. On n'a pas eu le temps, j'aurais aimé qu'on ait 3 mois de plus pour creuser rien que cette partie science watching, mais ça mériterait de faire encore mieux et plus. En revanche, il y a des personnes qui ont envie de creuser, il y a d'autres personnes qui ont vraiment, vraiment poussé les recherches sur cette partie-là. Je pense notamment à Stéphane Aurel, qui dans son livre Lobotomy a fait le point sur justement les stratégies d'influence et de science watching, ou bien les auteurs notamment des Marchands de doute.
Les Marchands de doute, sous-titré « Ou comment une poignée de scientifiques ont masqué la vérité sur des enjeux de société tels que le tabagisme et le réchauffement climatique », est un livre super important, écrit en 2010 par les spécialistes en histoire des sciences Naomi Oresk et Eric Conway. Il décrit extrêmement bien ce procédé de la fabrique du doute, par les lobbies qui veulent maintenir le statu quo sur les régulations concernant un produit. L'idée est de tout faire pour retarder la reconnaissance d'un consensus scientifique, par exemple sur la nocivité du tabac ou des nitrites, et laisser penser que le débat scientifique n'a pas encore tranché, et que les incertitudes sont encore trop grandes pour justifier d'interdire ou de réguler ce produit. Vous parlez aussi quand même dans le rapport de la façon dont les conflits d'intérêts peuvent émerger, notamment par des partenariats publics-privés avec les industries de la viande au sein des entreprises, des écoles d'ingénieurs agronomes par exemple.
Oui, et là on revient sur la question dont on parlait tout à l'heure, des failles ou des interstices laissés par le gouvernement, c'est-à-dire que dès lors qu'il n'y a pas assez de fonds pour la recherche, tout comme il n'y a pas assez de fonds pour une bonne qualité dans le système éducatif, eh bien on va avoir des industriels qui s'engouffrent et qui finalement pallient à ce manque de recherche pour la recherche privée. Et c'est un peu le même problème qu'on a au niveau européen sur la question des pesticides. C'est-à-dire que les molécules de pesticides de synthèse sont autorisées ou non, mais en tout cas leur mise sur le marché est homologuée suivant des études. Et ces études, qui a l'argent et le temps pour les faire? Eh bien, les industriels. Donc en fait, quand une molécule de synthèse de pesticides est mise sur le marché, ça s'est fait selon des études industrielles et rarement, selon des études publiques, indépendantes, etc. Et donc ça, c'est extrêmement problématique. Parce qu'ensuite, ces seuils de pesticides autorisés vont justifier leur utilisation massive, alors qu'en fait, la recherche sur laquelle le processus est basé manque totalement de cohérence et de rigueur.
Ouais. Un dernier point que j'ai trouvé passionnant dans votre rapport sur l'utilisation de l'autorité et de la forme un peu de la science pour servir des intérêts privés, c'est le fait que ça prend toujours cette forme du désintox, genre on va démonter les mythes sur l'élevage, on va démonter les mythes sur la viande, et ça prend toujours les sites ou leurs campagnes prennent beaucoup cette forme qui emprunte au code rationaliste de l'esprit critique.
Oui, tout à fait, et qui marche bien auprès des plus jeunes aussi.
Ouais.
Ça répond toujours aussi à cette exigence de vouloir des informations concises, brefs, facilement accessibles. Et donc l'idée de jouer sur les 5 réponses clés ou un vrai-faux, bah, ça va bien fonctionner.
Ouais.
Après, j'ai aussi envie d'être transparente, on a réalisé un vrai-faux sur l'option végétarienne dans les cantines avec Greenpeace, parce que c'est aussi un format qui fonctionne. Donc voilà, c'est juste pour dire qu'il y a certaines pratiques, qui sont largement utilisées, et en fait, tout ça, ça fait partie de l'ensemble des pratiques d'influence. Et les pratiques d'influence, en fait, la question, c'est pas tant est-ce qu'elles sont problématiques en soi, est-ce qu'elles ont une problématique intrinsèque, c'est à quel service elles sont mises, pour quelle fin elles sont utilisées. Et quand on fait des vrais-faux, qu'on utilise des mythes, ou qu'on utilise les codes des jeunes millennials, par exemple, des jeunes adultes, c'est pas la même chose de les utiliser pour qu'ils consomment plus de légumineuses et fassent plus de sport que pour l'insta consommer plus de viande ou des produits industriels. Donc voilà, c'est vraiment, encore une fois, la façon dont sont utilisées ou détournées ces pratiques qui est importante pour moi plus que ces pratiques elles-mêmes.
Ouais, ok, complètement. Alors du coup, est-ce que vous avez 3 ressources à nous recommander ?
Oui, alors il y en a plein que j'aimerais recommander. J'ai déjà parlé du livre de Lobotomy, le livre Lobotomy, pardon, de Stéphane Aurel. Mais si j'en prends d'autres, il y en a un que j'ai vraiment envie de recommander, c'est la bande dessinée de Inès Leroux qui s'appelle Algues Vertes. Je pense que cette bande dessinée-là, pour les personnes qui aiment ce format, elle est extrêmement édifiante. Elle montre à la fois l'évolution historique socio-économique du système agricole breton et de tout l'impact à travers ce fil rouge, ce sujet algues vertes. Elle montre aussi le désarroi des agriculteurs et des agricultrices en Bretagne. Elle montre comment les industries automobiles sont développées et ont fait en sorte de récupérer de la main-d'œuvre en fermant des productions agricoles parce qu'elles avaient besoin de main-d'œuvre dans les usines automobiles. Enfin voilà, elle montre comment la question agricole et l'industrialisation notamment des élevages est imbriquée à l'ensemble de l'évolution capitaliste et néolibérale de la société. Donc j'aime beaucoup cette référence Algebert de Nesleroy. Et aussi un autre livre, parce que là on a beaucoup parlé d'influence des lobbies, et il y a un gros enjeu à réduire très très fortement la consommation de viande, et pour certaines personnes, et je sais que pendant ce podcast c'est plutôt cette audience-là, mais pour certaines personnes il est même urgent d'arrêter tout court de manger des animaux ou des produits qui ont engendré de l'exploitation animale. Par contre, on a moins parlé de tout ce qui est qualité et de tout ce qui est agronomie et de tout ce qui est enjeu de nourrir tout le monde avec une alimentation de qualité, avec le fait de recréer du lien. Et il y a des chercheurs qui ont fait un travail que je trouve vraiment très fort qui s'appelle le scénario TIFA, 10 Years for Agroecology. Donc, je le dis avec un accent bien français, mais donc T-Y-F-A. Et avec ce scénario, ils ont montré qu'à 2050, on pouvait nourrir tous les Européens et les Européennes en prenant en compte l'évolution démographique et en se passant complètement à 100% d'engrais et de pesticides de synthèse et en favorisant plus de biodiversité. Par contre, ils ont regardé les flux d'azote, ils ont regardé en fait est-ce que techniquement, on peut nourrir tout le monde avec la bio, concrètement. Et pour ça, ils montrent que oui, c'est complètement possible. Ça, ils répondent à toutes les questions des détracteurs de la bio. Par contre, ça nécessite de réduire beaucoup les volumes de consommation de la viande, et en particulier de la viande de porc et la volaille. Et c'est important parce que la volaille, on l'a dit tout à l'heure, hein, mais la consommation est grimpante. Alors pour les autres viandes, ça se réduit très légèrement, mais ça se réduit. Donc il y a un enjeu à repenser notre modèle de demain et à recréer des récits futurs qui donnent envie aux gens. Et donc, ils ont créé ce scénario qui est très technique. Mais ils ont fait un livre qui, pour le coup, est très accessible et ça se, vraiment, ils le racontent vraiment, ça se lit comme une histoire. Mais c'était établi scientifiquement. C'est Demain une Europe agroécologique et les auteurs, c'est Xavier Poux et Pierre-Marie Aubert, avec la participation de Marielle Cour. Ah, donc ça, c'est un livre que je recommande. Et enfin, si je peux en dire un troisième, si on dit que l'obitomie, ça compte pas, j'ai envie de conseiller quand même Croire aux fauves de Natacha Martin. Croire aux fauves, c'est un petit livre qui se lit très très bien. Il apporte vraiment une réflexion sur le rapport des humains aux sauvages, sur le rapport des humains aux vivants. Alors avec une ligne différente de Baptiste Morisot, par exemple, ou Val Plumwood, qui vont être plus sur la défense de l'intérêt de manger des animaux. Là, Natacha Martin, elle n'est pas sur cette ligne-là, je préviens. Elle est beaucoup plus sur son rapport aux vivants. Elle s'est faite croquer la tête par un ours quand elle était au Kamtchatka. Et donc, elle revient sur ce que ça signifie pour elle, ce rapport aux ours. Voilà. Et c'est un très beau livre qui, je pense, va contribuer à l'éveil des imaginaires collectifs.
Eh ben, merci beaucoup. Je ne connaissais pas. J'irai lire avec plaisir. Et merci beaucoup, Laure Ducos, d'être venue dans Comme un poisson dans l'eau.
Merci beaucoup. Au revoir.
C'est la fin de cet épisode, j'espère que vous l'aurez trouvé intéressant et instructif pour contrecarrer la désinformation active des lobbies de la viande. Je dois dire que je suis assez content de la diversité des sujets qu'on aborde ensemble dans ce podcast. En tout cas, moi, je m'efforce à ce que chaque épisode soit utile à la réflexion autour du spécisme ou à la lutte contre cette oppression. Et je vous remercie pour tous vos retours, positifs et critiques, qui m'aident à encore mieux traiter les sujets. N'hésitez pas à continuer à me dire sur les réseaux ce que vous pensez des épisodes. Et merci aux tipeuses et tipeurs qui me soutiennent. Allez, bisous.